Donc, nous en étions à la nationalisation du canal de Suez. Alors, cette décision de nationaliser le canal, malgré son caractère symbolique, n'avait pourtant rien de révolutionnaire. Elle ne faisait qu'anticiper sur la restitution du canal à l'Égypte prévue pour 1968. De plus, Nasser prévoyait d'indemniser les actionnaires à un taux qui ne les lésait pas. Mais c'était tout de même inadmissible pour les impérialistes franco-britanniques qui ne tarissaient pas d'injures sur Nasser, qu'ils qualifiaient de nouvel Hitler, de pillard insolent et d'apprenti dictateur. En fait, pour le Premier ministre français, le socialiste Guy Mollet, comme pour le gouvernement britannique, il ne s'agissait pas seulement du canal de Suez. Nasser symbolisait le nationalisme arabe avec lequel ils étaient aux prises ailleurs, à Alger ou en Irak. D'ailleurs, Nasser avait proclamé son soutien sans faille à la lutte d'indépendance algérienne. Tout cela en avait fait l'homme à abattre. En octobre 1956, la France et la Grande-Bretagne, aidés d'Israël, se lancèrent dans l'expédition militaire de Suez pour la reconquête du canal. Mais celle-ci fut un échec. Les États-Unis, qui avaient pris la relève britannique dans la région, s'opposèrent à cette expédition. Et l'URSS exigeait, elle aussi, un cessez-le-feu. Devant la réprobation des deux super-grands, la France et l'Angleterre n'eurent pas d'autre choix que d'évacuer leurs troupes. Nasser devenait le champion du nationalisme arabe et incarnait ainsi la dignité retrouvée des peuples. En 1957, en Jordanie, les partis pro-nassériens gagnèrent les élections. Refusant le verdict des urnes, le roi Hussein décréta l'état de siège. La situation était insurrectionnelle. Ce fut l'armée britannique elle-même qui vint au secours de la monarchie. Et au Liban, ce furent les troupes américaines, qui rétablirent l'ordre. En Irak, le coup d'état des officiers libres égyptiens avait relancé la contestation. Des grèves et des manifestations éclatèrent. La population vomissait un régime à plat ventre devant l'impérialisme. Et l'exemple de l'Égypte était un encouragement. Les officiers de l'armée irakienne étaient remués par les idées de Nasser. En juillet 58, une organisation clandestine des officiers libres se constitua au sein de l'armée irakienne. Le général Qassem fit un coup d'État sans rencontrer la moindre résistance. La famille royale de Faisal eut moins de chance que celle de Farouk en Égypte. Elle fut exécutée. Le général Qassem entra dans Bagdad en héros et proclama la République. Un vent de liberté souffla sur Bagdad, créa un climat qui profita en premier lieu au parti communiste irakien. Par le courage de ses militants, il avait regagné un prestige considérable. Mais le parti communiste s'effaça complètement derrière le général Qassem, qui ne tarda pas à se retourner à la fois contre lui et la population. Une période s'achevait. Les régimes militaires de Qassem, Nasser et autres officiers étaient des dictatures de plus en plus féroces, bien qu'elles soient paternalistes. S'ils avaient pu se hisser au pouvoir et incarner le progrès, c'est parce que le puissant mouvement stalinien avait désarmé politiquement le prolétariat. Et cela au moment même où s'ouvraient des possibilités révolutionnaires. Ces partis avaient ainsi préparé le terrain aux officiers qui les remercièrent en les jetant en prison. Au moment où Nasser se rendait à la conférence de Bandung en 1955, il organisait une rafle policière contre les communistes. Les bonnes relations entre l'Égypte et l'URSS obligeaient les communistes à soutenir le régime nassérien. Et le comble, c'est que du fond des camps où ils étaient enfermés et torturés, les communistes organisaient des meetings de soutien à Nasser et rédigeaient des odes en l'honneur de leur bourreau. À la fin des années 50, Nasser était au zénith de sa popularité. Il avait neutralisé tous ses opposants. Il plaisait par son discours, mais aussi par son style. Nasser, fils d'un petit fonctionnaire de la poste, savait parler le langage des faubourgs. Il n'avait pas voulu quitter sa modeste maison de Zetoun pour le palais présidentiel. Et cela touchait le peuple égyptien. Il symbolisait l'anti-impérialisme, mais malgré les apparences, Nasser ne combattait pas l'impérialisme. Il combattait pour la place de la bourgeoisie égyptienne dans le cadre du système impérialiste. Mais la nationalisation du canal et ses discours le faisaient apparaître comme un radical vis-à-vis des masses pauvres, et le projet d'unité arabe qu'il tenta de mettre en œuvre renforça son prestige. L'objectif du panarabisme était de créer un vaste marché unifié, sans barrières douanières, qui permette au capitalisme arabe de se développer. Une telle unification aurait été indéniablement un progrès au regard du morcellement que subissaient les peuples arabes. Mais les bourgeoisies locales n'en avaient ni la capacité, ni la volonté. Les politiciens nationalistes agitaient ce slogan par démagogie, pour récupérer le sentiment et l'aspiration des masses à l'unité, justement. En 1958, la Syrie et l'Égypte fusionnèrent au sein de la République arabe unie. Mais celle-ci éclata 3 ans plus tard. En effet, l'État syrien n'accepta pas de subir le contrôle et l'hégémonie de l'État égyptien, beaucoup plus puissant. Seules les masses pauvres en lutte, mobilisées, auraient pu créer un État unifié réellement démocratique. Un État qui s'appuie sur l'initiative des ouvriers et des petits paysans. Un État où les travailleurs contrôlent l'ensemble des richesses de la région, planifient l'économie et s'attaquent à tous les vestiges du passé. L'État de l'Égypte était en proie à des difficultés économiques. Ces difficultés étaient aggravées par les dépenses militaires. La misère était toujours là. Dans les campagnes, les ventres des paysans étaient toujours aussi creux. Le nassérisme s'usa. L'expérience panarabe avait tourné court. Dans les années 60, le mécontentement grandit. On leur en avait demandé des sacrifices aux ouvriers et aux paysans, au nom de la production nationale et de la grandeur du pays. Mais ce qu'avaient rapporté leurs efforts, ils n'en avaient pas vu la couleur. Alors les grèves avaient beau être interdites, la colère finit par exploser. Fin 1966, après plusieurs années d'étouffement, des grèves contre l'augmentation du temps de travail se sont multipliées. C'est dans ce contexte que Nasser, pour redorer son blason, procéda au blocus du port d'Elat, débouché israélien sur la mer Rouge. Ce fut le prétexte à l'attaque israélienne de mai 1967. L'aviation israélienne détruisit l'essentiel du potentiel militaire et stratégique égyptien. Les avions de l'Égypte furent, eux, cloués au sol. En 6 jours, les chars israéliens conquirent sur la Syrie les hauteurs du Golan. L'Égypte perdait Gaza et la péninsule du Sinaï. Et Israël reprenait à la Jordanie ses conquêtes de 1948. Cette guerre des 6 jours, avec le soutien des États-Unis, avait triplé le territoire d'Israël, au détriment des peuples palestiniens, et cela portait un coup fatal au prestige de Nasser. Il n'avait pas su préserver l'Égypte de la défaite. Aussi, Nasser démissionna en juin 1967. De puissantes manifestations le rappelant au pouvoir, il revint. Mais le nassérisme était politiquement mort. À la suite de la guerre des 6 jours, les pays arabes, la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, virent arriver un flot de réfugiés palestiniens chassés des territoires nouvellement occupés par Israël. La lutte du peuple palestinien allait désormais occuper le devant de la scène. Les Palestiniens prirent conscience qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Et ils rejoignirent les milices de l'OLP, l'organisation dirigée par Yasser Arafat. La lutte du peuple palestinien connut bien des rebondissements, souvent tragiques. Elle a représenté un formidable potentiel de révolte. Leur présence constituait un ferment révolutionnaire qui pouvait déstabiliser les États arabes qui les accueillaient. Dans tout le monde arabe, la popularité des combattants palestiniens était immense. Mais les masses pauvres palestiniennes n'en étaient pas conscientes. Et il n'y eut aucun parti pour les éclairer dans ce sens. Par contre, les dirigeants arabes et ceux de l'OLP en avaient, eux, une conscience aiguë. En restant dans le cadre étriqué du nationalisme palestinien, les dirigeants de l'OLP ont agi en représentants responsables de leur bourgeoisie. Les dirigeants arabes ne voulaient pas que les Palestiniens interviennent dans la vie politique de leur pays. Arafat n'empiéta pas sur leur plate-bande, car cela correspondait aussi à sa vision politique. Il voulait bien du soutien des États arabes, mais refusait de prendre la tête de la révolte des peuples et refusait que les Palestiniens jouent ce rôle. Pourtant, ces derniers étaient dans une situation unique, privilégiée pour être à la tête de cette révolte. Ils n'avaient pas besoin de Facebook pour communiquer leur révolte aux classes pauvres de Jordanie, du Liban, de Syrie et d'Égypte, qu'ils côtoyaient physiquement. Ils auraient pu s'appuyer sur le sentiment qu'avaient les masses pauvres de ces pays de faire partie d'une même classe. D'autant que les Palestiniens avaient le plus haut niveau d'éducation du monde arabe. Ils en partageaient la culture et la langue, mais leurs dirigeants refusaient d'avoir un langage de classe. Du coup, la lutte du peuple palestinien se cantonna à une lutte contre l'État d'Israël, alors qu'elle pouvait devenir une lutte de l'ensemble des masses pauvres du monde arabe contre ceux qui les opprimaient. La lutte armée de l'OLP fit office de radicalisme, mais cette politique était en réalité respectueuse de l'ordre social et s'est révélée être un échec pour le peuple palestinien qui se retrouva isolé, acculé à se battre à la fois contre Israël et contre les États arabes. En 1970, en Jordanie, ce fut le massacre de Septembre Noir. Les blindés de l'armée jordanienne prirent d'assaut les camps réfugiés palestiniens. Il y eut 3500 morts et 10 000 blessés. Les États arabes ne bronchèrent pas, ni la Syrie, ni Nasser, qui avaient attendu que les combattants palestiniens soient hors de combat pour demander un cessez-le-feu. En 1976, l'armée syrienne entra au Liban. Elle venait rétablir l'ordre social qui était menacé par la mobilisation conjointe des Palestiniens et des Arabes pauvres du Liban. Et puis, en 1982, ce fut l'armée israélienne qui franchit la frontière libanaise, avec comme objectif de chasser l'OLP du Liban. Arafat put rallier Tunis avec 15 000 hommes, mais plus de 1500 Palestiniens, en majorité des hommes, des femmes et des enfants, furent massacrés dans les camps de Sabra et Shatila par l'extrême droite chrétienne libanaise. Ces massacres auraient été impossibles sans la présence complice de l'armée israélienne. En 1987, commençait la première intifada. De très jeunes Palestiniens armés de pierres s'attaquèrent de façon systématique aux soldats suréquipés israéliens. Ce ne fut pas l'OLP qui déclencha la révolte, mais la population des territoires occupés elle-même. L'OLP, cependant, en profita pour obtenir une relative reconnaissance de la part d'Israël, qui déboucha sur la promesse de la création d'un État palestinien. Le retour d'Arafat en Palestine, le 1er juillet 1994, donna lieu à des scènes de liesse, mais elles furent de courte durée. La vie de la population palestinienne était toujours aussi difficile. L'occupation israélienne n'avait pas cessé. Une nouvelle fois, les Palestiniens se retrouvaient seuls face à Israël. Finalement, le nationalisme palestinien résumait l'histoire de tous les nationalismes arabes, qui s'étaient prétendus progressistes et s'étaient révélés être une impasse. Ils avaient engendré désillusions et déceptions, pour finalement faire le lit de mouvements plus réactionnaires encore, les mouvements islamistes. Après la guerre du Kippour en 1973, qui pour la Syrie et l'Égypte apparut comme une défaite honorable, l'Égypte de Sadat, le successeur de Nasser, prit ses distances avec Moscou. Sadat se replia sur un nationalisme purement égyptien et tourna le dos au panarabisme. Confronté à de graves difficultés financières, Sadat pratiqua une politique d'ouverture envers Israël et les États-Unis. En 1977, il se rendit à Jérusalem. Et un an plus tard, les accords de Camp David furent signés sous l'égide de Carter. Un traité de coopération économique s'ensuivit en 1979. Le Sinaï était restitué à l'Égypte. Celle-ci fut exclue de la Ligue arabe. Peu de temps après, en 1981, Sadat était assassiné par les islamistes, payant ainsi cette politique de collaboration avec l'impérialisme. La paix avec l'Égypte, en plus d'apporter à Israël la sécurité sur leurs frontières communes, faisait voler en éclats la coalition arabe. les mouvements d'opposition islamiste profitèrent de l'échec des régimes soi-disant progressistes. La forme que prirent ces groupes islamistes variait d'un pays à l'autre. Dans les années 70, ils cherchèrent à conquérir une base populaire. Outre l'échec du panarabisme, ce fut la conjugaison de plusieurs facteurs qui leur donna un élan. Il y eut d'abord le soutien financier de l'Arabie saoudite, des États-Unis et d'Israël, puis la révolution en Iran, également l'effondrement de l'URSS, et pour finir la guerre du Golfe. Et tout cela dans un contexte de crise économique profonde. L'Arabie saoudite finançait de longue date dans de nombreux pays des groupes islamistes dans le but d'affaiblir les régimes dits progressistes et surtout de faire pièce à l'influence communiste. Avec la bienveillance d'Israël et des États-Unis, l'Arabie saoudite devint le premier bailleur de fonds du Hamas en Palestine, du FIS en Algérie et des frères musulmans en Égypte et au Soudan. En 1979, alors que l'alliance de l'Égypte avec les États-Unis et Israël était vécue comme une trahison par les peuples arabes, en Iran, la révolution balaya le régime du Shah. Et elle porta au pouvoir les ayatollahs. Ainsi, les islamistes devenaient les champions de l'anti-impérialisme. Les déçus du nationalisme arabe retrouvèrent dans l'islamisme un substitut au panarabisme. Le parcours de l'Algérien Abbassi Madani illustre bien cette évolution. Dans les années 40, il était membre du mouvement pour le triomphe des libertés et de la démocratie fondé par le militant algérien Messali Hadj et proche du Parti communiste français. Dans les années 60, il se rapprocha de Ben Bella, dirigeant du FLN. Et à la fin des années 80, il devint un des principaux dirigeants du FIS, le Front islamique du salut. L'effondrement du bloc soviétique avait laissé nombre de pays arabes orphelins d'un allié traditionnel et puissant. L'Algérie, le Sud-Yémen, la Syrie durent chercher des palliatifs à l'aide financière et technique que leur apportait l'URSS. Durant les années 80, confrontés à la crise économique, les États arabes s'engagèrent dans la voie d'une libéralisation de leurs économies. L'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, endettés, furent contraintes d'accepter les programmes du FMI. Cela eut des conséquences sociales et économiques catastrophiques pour les peuples. Des émeutes de la faim éclatèrent un peu partout. La révolte sociale provoquée par le chômage endémique et l'accroissement des inégalités profita aux islamistes. Le succès des islamistes était basé sur le développement d'associations d'entraide tissées à travers le réseau des mosquées, construites massivement dans les années 80. Les mosquées étaient un des rares endroits où régnait une relative liberté d'expression. Mais sur le plan politique et moral, les islamistes faisaient reculer toute la société. Les femmes furent les premières à en faire les frais, par toute une série de lois et codes de la famille qui en faisaient légalement des mineurs à vie. Les islamistes prétendaient améliorer la situation sociale grâce à la pureté de l'islam. Ils prétendaient lutter contre la corruption, le relâchement de mœurs, l'usage de l'alcool, en instaurant la charia. Mais ces mouvements obscurantistes, ultra-réactionnaires, défendaient, tout comme aujourd'hui, une politique bourgeoise. Ils ne remettaient en cause ni l'exploitation capitaliste, ni la domination de l'impérialisme. Par exemple, en Égypte, les frères musulmans ont soutenu la contre-réforme agraire qui a permis aux gros propriétaires de reprendre les terres cédé aux petits paysans lors de la réforme agraire en 1956. Ainsi, en avril 2006, dans le village de Dakhalia, l'héritière d'une famille d'anciens propriétaires a été autorisée par la justice à récupérer des terres saisies sous Nasser. La police a investi le village et a expulsé une dizaine de familles de paysans. Les oulémas de l'université Al-Azhar et le dirigeant des frères musulmans ont déclaré, je cite, que cette décision était conforme aux préceptes de l'islam qui respecte et défend la propriété privée. De nombreux paysans ont payé très cher ces préceptes de l'islam. Entre 2001 et 2004, les affrontements entre paysans et anciens propriétaires auraient fait 171 morts, 945 blessés et abouti à l'arrestation de 1642 personnes. Ces 30 dernières années ont donc été une période sombre pour les populations pauvres des pays arabes. Ceux qui ont été épargnés par la violence et les guerres ont vu baisser leur niveau de vie déjà faible et ont aussi subi des reculs politiques. À l'influence grandissante des intégristes dans la société s'est ajoutée l'absence de liberté. Les dictateurs ont pu bénéficier du soutien sans faille des puissances occidentales et de leurs forces de répression. Leurs instruments, qu'il s'agisse de la police ou de l'armée, sont soutenus par les puissances occidentales. Les officiers d'état-major en particulier ont été formés dans les grandes écoles militaires européennes ou américaines. Chaque année, les États-Unis déboursent près de 1,5 milliard de dollars pour entretenir l'armée égyptienne. Le nouveau chef d'état-major de l'armée égyptienne, Sami Anan, présenté comme, je cite, « l'arbitre impartial de la révolte populaire et l'épine dorsale de la transition démocratique », est passé par l'école de guerre en France. Et il se trouvait à Washington la veille de la chute de Moubarak pour prendre conseil auprès des généraux américains. Ces régimes de dictature ont permis que l'Égypte, la Tunisie, le Maroc deviennent des Eldorados pour les investissements des patrons occidentaux et notamment français. La presse tunisienne, ces jours-ci, révèle les bonnes affaires réalisées par les 1250 entreprises françaises présentes en Tunisie. Par exemple, tel grand groupe hôtelier vend pour 1500 euros à ses clients des séjours touristiques tout compris. Vous savez, avion, repas, massage, soins esthétiques, qu'il achète 300 euros auprès de sa société tunisienne. Ou cette banque étrangère qui vend à sa filiale tunisienne un logiciel pour 15 millions d'euros alors que sa valeur réelle est de 5 millions et en prime, le logiciel est obsolète. Alors il n'y a pas à dire, pour les entreprises étrangères, ces pays, c'était vraiment le paradis. Main-d'œuvre qualifiée, sous-payée, muselée et rêve absolu pour les patrons, les taxes et les impôts y sont ridiculement bas. Ces pays ne sont pas que des paradis pour les passionnés de sites archéologiques ou les touristes en quête de soleil. Ce sont avant tout des paradis fiscaux pour les capitalistes de tout poil. Mais pour l'heure, on ne parle plus de l'Égypte pour ses pyramides. Car depuis 3 mois, les peuples ont relevé la tête. Et par vagues successives, la révolte continue de s'étendre à des degrés divers. La contestation actuelle vise au renversement de régimes pourris. Elle a mis les mots d'ordre de liberté et de démocratie sur les banderoles des manifestations. Mais la révolte vient aussi de la faim, de la cherté de la vie, du chômage massif, de l'absence de perspectives, y compris pour la jeunesse diplômée. Avoir un logement pour sa famille, se nourrir convenablement, circuler librement, relève de plus en plus de l'impossible. Les richesses produites par les travailleurs n'ont servi qu'à enrichir les grands groupes capitalistes et les cliques au pouvoir. Le fameux miracle tunisien, avec ses taux de croissance élevés, n'était qu'un leurre. En Algérie, le régime affiche triomphalement ses 155 milliards de réserves en dollars, produits de la rente pétrolière et gazière. La bourgeoisie algérienne et ses nouveaux nababs en ont bien profité. Mais les masses exploitées, elles ont été écartées du festin. Elles ont été condamnées à une misère croissante et à un chômage record de 30 à 40%, qui touche en premier lieu la jeunesse. Oui, la force des pays arabes, à coup sûr, c'est sa jeunesse. 60% de la population a moins de 25 ans. Cette jeunesse a grandi sous la dictature des Ben Ali et Moubarak, une jeunesse condamnée au chômage, et à vivre jusqu'à un âge avancé au domicile parental. Alors la jeunesse des classes exploitées étouffe. Toutes les portes se ferment devant elle avec brutalité. Elle ne peut même plus caresser le rêve des générations précédentes, émigrer et vivre une autre vie en Europe. Car des barbelés se sont érigés autour des citadelles impérialistes. Obtenir un visa est impossible, à moins d'avoir de l'argent ou du piston, ou plutôt les deux. La jeunesse refuse la ogra. Ce mot signifiant mépris est apparu en Algérie sur des banderoles, affichant non à la ogra. L'expression s'est répandue de Casablanca à Tunis, reprise par la jeunesse pour exprimer son désespoir, le sentiment d'appartenir à une génération sacrifiée. C'est ce qu'a exprimé le jeune Mohamed Bouazizi en s'immolant par le feu. Et toutes les familles des quartiers populaires arabes ont entendu ce cri et l'ont compris dans leur chair. Une société qui condamne sa jeunesse au désespoir ne peut pas durer et doit être renversée. Comme l'ont dit les manifestants, le mur de la peur est tombé. Face à la contestation, Ben Ali, dictateur de la Tunisie pendant 23 ans, et Moubarak, dictateur de l'Égypte pendant 30 ans, ont dû plier bagages. Des bagages bien lourds, au demeurant, puisque chargés des milliards volés à leur peuple. 40 milliards pour Moubarak et seulement, pourrait-on dire, 5 pour Ben Ali. Depuis 3 mois, les régimes en place sont ébranlés avec plus ou moins d'ampleur. Voici l'analyse qu'un observateur inquiet fait de la tournure des événements. Je le cite. Toute la région était un volcan éteint. Il se réveille avec d'autant plus de force qu'on le croyait éteint. Et il a de nombreux cratères qui s'allument les uns après les autres. Eh bien nous, nous nous en réjouissons. Les choses bougent enfin et les régimes ont l'air de ne pas réussir à contenir la révolte. Les cratères semblent effectivement avoir des galeries qui communiquent. Alors cela tranche avec les décennies de recul et de résignation. Décennies pendant lesquelles les peuples ont payé le prix fort. Pris en tenaille entre la dictature militaire de régime pourri d'une part, et la montée en puissance de courants obscurantistes d'autre part. Et si les uns et les autres se sont parfois affrontés, ils se sont toujours entendus pour mettre au pas la population et étouffer la combativité ouvrière. Après tous les chocs subis, les masses arabes paraissaient abattues et résignées. Il faut croire que la vitalité des exploités est puissante. La chaîne de volcans s'est réveillée, sans qu'on puisse dire si ces premiers soubresauts préparent pour un avenir proche des explosions plus fortes encore. Les manifestations se succèdent et ont contraint les gouvernements à multiplier les concessions politiques. Pour prévenir l'explosion, le 23 février, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a promis un plan de 36 milliards de dollars destiné à relever le salaire des fonctionnaires et à bâtir des logements. Le 7 mars, le gouvernement du Bahreïn a limogé 6 ministres sur 10 et a annoncé un programme de construction de 50 000 logements sur 5 ans, pour un coût de plus de 5 milliards de dollars. Le 28 février, le sultan d'Oman a offert 300 euros à chaque chômeur de son pays et a augmenté le salaire minimum et les bourses des étudiants. Celui du Qatar a annoncé la tenue de prochaines élections. L'émir du Koweït, lui, a distribué à 2 reprises 1 000 dollars à chaque citoyen koweïtien. Mais il n'est pas sûr que les monarchies pétrolières puissent ainsi acheter une paix sociale que l'ensemble des pays impérialistes souhaitent pour cette région qui leur est hautement stratégique. Toutes les concessions faites n'ont pas réussi à arrêter le mouvement. La répression non plus. Au contraire, l'extension à d'autres pays se poursuit. Au Yémen, malgré des dizaines de morts, les manifestations bravent le gouvernement et rejettent l'état d'urgence. Tandis que la contestation s'est propagée à la Syrie, remettant en cause le régime d'Al-Assad. Nous espérons que, quels que soient les politiciens bourgeois de tout poil qui cherchent à les tromper, les classes exploitées trouveront leur chemin et qu'elles cultiveront la défiance qui les anime contre tous ceux qui voudraient qu'elles se contentent d'un ravalement de façade. En Égypte et en Tunisie, ces bons démocrates bourgeois s'étalent sur les chaînes de télévision et dans la presse écrite pour expliquer à des centaines de milliers de jeunes qui veulent avoir tout et tout de suite que tout n'est pas possible. Mais pour l'heure, les travailleurs du textile, des banques, des transports entrent en grève les uns après les autres, souvent pour des raisons de salaire. Les maigres avantages qu'on leur consent ne calment pas la protestation. Sans doute parce qu'ils sentent confusément que leurs luttes ne doivent pas se contenter ni de quelques changements de gouvernement, ni de mascarades électorales et constitutionnelles. Ils sentent qu'elles ne doivent pas se contenter non plus de maigres augmentations que l'inflation galopante leur reprendra rapidement. Le journal égyptien Al-Aram rapportait le 23 mars la grève qui touche le secteur bancaire. Les employés des banques d'Alexandrie étaient en grève. Ils revendiquent une égalité salariale et la démission de certains responsables accusés de népotisme. Ils dénoncent leurs maigres augmentations, alors que les copains ou proches du patron, eux, se voient allouer de grosses sommes. À la Banque nationale, la première du pays, c'est la même chose. 15% d'augmentation pour les salaires des travailleurs, mais pour certains conseillers, jusqu'à 1 million de livres égyptiennes par mois, soit environ 120 000 euros. Le journaliste conclut ainsi, je cite, « Les employés demandent justice et égalité. Des droits qui ne verront le jour qu'au travers d'une transparence totale du fonctionnement des institutions. » Mais tel est le problème qui se pose aujourd'hui aux classes exploitées. Renverser un régime ne suffit pas. Encore faut-il renverser le pouvoir économique que ce régime servait et qui, lui, est toujours là. Le mur de la peur est tombé, il reste le mur de l'argent, c'est-à-dire la dictature économique exercée par l'impérialisme qui a pour complice la bourgeoisie locale. Bien sûr, nous ne connaissons pas l'avenir de ces mouvements, mais ils constituent d'ores et déjà un événement majeur qui nous donne espoir pour l'avenir. Nous savons que dans ce combat, la classe ouvrière est la seule classe qui peut jouer un rôle moteur et s'opposer à toutes les scories du passé, à tous les privilèges établis. Le prolétariat des pays arabes est aujourd'hui bien plus nombreux, plus jeune et plus instruit que lors des révoltes du passé. Et il a entre ses mains de nombreux atouts, son nombre, mais aussi le fait de partager la même langue. Les travailleurs des pays arabes sont en contact les uns avec les autres. Ils circulent facilement d'un pays à l'autre. On a découvert avec la guerre en civil qu'1,5 million d'Égyptiens y travaillaient, ainsi que des Tunisiens, des Algériens. Et il en va de même dans tous les pays de Golfe. Et puis, les travailleurs arabes ont un autre atout. Ils sont des millions à vivre et travailler en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Espagne. Ils sont intégrés à la classe ouvrière de ces pays et participent à ces luttes. Alors, une renaissance du communisme dans les pays arabes aurait des conséquences incalculables, non seulement pour le mouvement ouvrier arabe lui-même, mais aussi pour le mouvement ouvrier des pays européens. Le lien entre eux pourrait s'établir naturellement. Et ce serait un juste retour des choses que le mouvement ouvrier arabe féconde et régénère le mouvement ouvrier d'Europe. Nous faisons confiance au prolétariat pour qu'au travers de ces luttes, il prenne conscience de sa force et de son droit à contrôler les richesses. Bien sûr, pour aller au bout de ce combat, il lui faudra des véritables partis communistes. Et on peut espérer que parmi les travailleurs et les intellectuels, il y ait des femmes et des hommes qui se mettent à réfléchir à l'avenir, pas seulement à leur avenir personnel, mais à l'avenir de toute l'humanité. Et on peut espérer aussi qu'ils renouent avec le marxisme, avec le passé du mouvement ouvrier. Nous savons que ce n'est pas encore dans la conscience des travailleurs, mais les classes dirigeantes, elles, le craignent. Et si cette crainte devient réalité, tous les espoirs seront permis pour l'avenir d'une véritable révolution arabe, c'est-à-dire la révolution des prolétaires et des exploités de ces pays.